Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'humanitaire. Lundi 23 mai s'ouvre à Istanbul en Turquie le sommet mondial sur l'action humanitaire, le premier du genre. L'occasion de réfléchir à une meilleure appropriation des enjeux et des capacités humanitaires par les populations frappées de catastrophes naturelles ou de conflits. Ces dernières années ont vu les situations de crise se multiplier dans un contexte de financement insuffisant, de structuration des sociétés civiles et d'un certain refus de l'ingérence internationale dans la résolution des problèmes nationaux. Pourquoi ce sommet humanitaire en 2016? Quelles en sont les attentes? À quels défis l'action humanitaire est-elle aujourd'hui confrontée? Nos invités, Anne Herry, directrice du plaidoyer et des relations institutionnelles à Handicap International, bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Klaus Sørensen, conseiller auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour l'aide humanitaire, les réponses aux crises, la résilience, bonjour.
Bonjour de Venise.
Et Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, bonjour.
Bonjour RFI.
Klaus Sørensen, comment est-ce que vous abordez ce sommet et quels en sont finalement les enjeux? Et je poserai troisième volet peut-être pour cette première question. Le choix de la Turquie comme pays d'accueil de la conférence mondiale, il n'est pas étranger au fait que la Turquie est un donateur important d'assistance humanitaire et que ce pays se trouve depuis plusieurs mois au centre des questions des réfugiés, avec en particulier les réfugiés syriens. Klaus Sørensen.
Écoutez, il est tout à fait évident pour tout le monde que le système humanitaire est complètement débordé. Il s'agit de la conséquence de changements structurels, c'est-à-dire le changement climatique, la pression démographique, pensez au Sahel où la population augmente de façon dramatique, mais aussi de changements sismiques dans la situation politique, géopolitique, au Moyen-Orient, en Afrique, et évidemment l'instabilité en Afghanistan, etc., etc. Deuxième point, c'est qu'il y a eu un certain nombre de grands sommets, le sommet sur le financement du développement, sur la réduction du risque à Sendai, sur les objectifs de soutenabilité mondiaux, et tous ces sommets-là sont focalisés sur la population globale dans son ensemble. Mais il manquait vraiment un sommet qui se focalise plus précisément sur les populations les plus vulnérables, vraiment le bas de l'échelle, c'est-à-dire les 60 millions qui sont déplacés par la force, les 200 millions qui en permanence vivent juste à la limite de la vie ou de la mort, pour vraiment faire des efforts pour prévenir et s'assurer qu'il y a une aide qui vient dans leur direction, mais aussi qu'on essaie de réfléchir ensemble comment prévenir au niveau politique, au plus haut niveau politique, ces genres de crises et ces désastres, et mobiliser la communauté internationale pour vraiment prendre conscience de cette souffrance. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une déconnexion du niveau politique par rapport à la souffrance. On a le Conseil de sécurité qui est au plus haut niveau, etc., etc., mais qui n'arrive pas à prendre un certain nombre de décisions qui sont absolument essentielles pour arrêter ces conflits politiques qui minent et qui rendent misérable la vie de millions et de millions de personnes.
Ça fait tout ce que vient d'évoquer Klaus Sørensen, Anne Herry, un agenda extrêmement large pour ce sommet qui, je le rappelle, se tient sur deux journées. Alors c'est vrai qu'il y a eu toute une procédure de préparation avec de grandes réunions au niveau régionaux dans le monde. Enfin, tout de même, l'agenda est juste monstrueux.
Oui, effectivement. En fait, ce sommet humanitaire, c'est le premier sommet de ce type. Ça fait, il y a eu près de 3 ans de consultations quand même avec des dizaines de milliers d'acteurs qui ont été impliqués. 153 pays ont été concernés par la consultation. Je crois qu'il y a environ 6000 participants attendus à Istanbul. Donc, ce sommet, c'est l'aboutissement d'un processus. Donc, il y a une énorme ambition. Le fait que ça se tienne en Turquie, aux portes de la plus grande crise humanitaire de l'histoire actuelle, effectivement, c'est également très fort symboliquement. Et c'est à la fois un risque, parce que ça veut dire que si ce sommet qui se tient à Istanbul ne débouche que sur des engagements faibles, alors ce sera effectivement une farce. Donc il y a vraiment besoin d'un engagement politique très fort pour que les résultats du sommet soient à la hauteur de cette ambition. Et pour moi, il y a deux choses un petit peu différentes dans cet agenda. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'engagement politique des États pour prévenir les conflits et les résoudre. Et ça, je dirais que c'est vraiment la base de ce qui pourrait avoir un réel impact sur la vie des personnes qui sont menacées par des crises humanitaires. Et ça, c'est vraiment la responsabilité des États. Donc nous, ONG, nous nous sommes engagés dans ce sommet, plus pour pousser les États à prendre des engagements forts dans ce domaine-là. On en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a tout ce qui est amélioration des pratiques, de l'organisation, du partenariat, de l'aide humanitaire. Et là, effectivement, je dirais qu'en tant qu'ONG, on a beaucoup plus notre responsabilité, notre pierre à apporter. Donc, c'est un petit peu sur ces deux axes-là que nous nous engageons à Istanbul.
Alors, effectivement, Alain Boinet, je me tourne vers vous. Il est vrai que les ONG, vous avez votre propre agenda sur ce sommet. Klaus Sørensen en a peut-être un autre différent. On abordera la question des États. Mais en réponse, finalement, à cette première question, Alain Boinet, la façon dont... vous abordez ce sommet et les enjeux que vous y voyez?
Alors, on aborde ce sommet plein d'espoir. C'est le premier sommet humanitaire mondial, donc c'est une bonne chose. C'est nécessaire, c'est même indispensable. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies est non seulement très copieux, mais il est globalement pertinent et ambitieux. Toute la question est de savoir, finalement, sur quoi va déboucher le sommet. Alors, évidemment... les deux jours à venir sont décisifs, bien que tout cela soit engagé depuis longtemps. Mais je dirais que nous y allions avec beaucoup d'espoir, mais avec énormément de vigilance, parce que ce sommet doit déboucher sur une véritable amélioration de l'aide humanitaire internationale en réponse aux besoins des populations qui, aujourd'hui, cette réponse est insuffisante. Et elle a atteint des limites. Et on est collectivement responsable, mais c'est un sommet organisé par les Nations Unies. Donc, ce que je voudrais dire... précisément, c'est qu'effectivement, Solidarité internationale, avec la majorité des ONG humanitaires françaises et Coordination Sud, publie un document à l'occasion de ce sommet pour souligner le fait que les principes humanitaires de neutralité politique, d'impartialité des secours et d'indépendance à l'égard des agendas politiques est absolument fondamental par rapport aux décisions politiques et financières qui seront prises. C'est-à-dire que d'un côté, comme le disaient Anne Herry et Klaus Sørensen, la responsabilité des États est décisive sur la prévention et la gestion des conflits. C'est leur responsabilité. Ça n'est pas simple, mais il faut qu'ils l'assument beaucoup mieux à l'avenir qu'aujourd'hui. On voit ce qui se passe au Proche-Orient. On en voit les conséquences jusqu'à Calais. Par ailleurs, les ONG, les organisations humanitaires, elles sont responsables de secours apportés aux populations en danger. Pour ça, elles doivent y accéder. Dans les situations de conflit, l'application stricte des principes humanitaires est essentielle. C'est-à-dire que seule l'impartialité des secours délivrés sans considération ethnique, religieuse et politique est le moyen d'accès aux populations dans les situations de conflit en particulier. Et nous attendons du sommet qu'il réaffirme ses principes, qu'il respecte ses principes. Dans les pays en guerre, les ONG ont la plus grande difficulté à accéder à l'ensemble des populations parce que les acteurs politiques et militaires sur place nous en empêchent parfois. Nous espérons que le sommet, les États, viendront en soutien et non pas en obstacle pour des motifs politiques qui vraiment entraveraient l'action humanitaire qui doit améliorer son efficacité.
Alors, on reviendra sur la notion de responsabilité des États. Alain Boinet, vous citiez les organisations non gouvernementales françaises. Médecins sans frontières a décidé de boycotter ce sommet humanitaire mondial. Et je voudrais juste revenir sur l'argumentaire avancé pour cette décision. Entre guillemets, donc je cite, nous ne voyons plus comment le sommet va aider le secteur humanitaire à répondre aux besoins massifs engendrés par la violence continue contre les patients et le personnel médical en Syrie, au Yémen et au Sud-Soudan, par le blocage des civils en fuite aux frontières de la Jordanie, la Turquie et la Macédoine, par le traitement inhumain des réfugiés et migrants qui tentent désespérément de trouver refuge en Grèce et en Australie. C'est ce qu'égrène donc Médecins sans frontières dans un communiqué publié il y a quelques jours. Et l'organisation estime aussi que la réunion d'Istanbul ne servira à rien pour remédier à la faiblesse constatée des réponses aux récentes épidémies Ebola, fièvre jaune en Afrique ou aux graves restrictions mises en place par certains États en termes d'accès humanitaire. La responsabilité des États dans toutes ces situations, dit encore MSF, et la capacité amoindrie des humanitaires à y répondre sera ignorée. Je vais vous demander aux uns et aux autres de réagir, Klaus Sørensen, cette décision de MSF et l'argumentaire avancé. Voilà, comment réagissez-vous?
La première chose à dire, c'est que MSF fait un travail tout à fait remarquable dans différentes zones de crise. notamment au Moyen-Orient, mais moi je les ai rencontrés aussi dans la crise d'Ebola. Alors, ils ont droit au plus grand respect de tout le monde. Alors, c'est à eux de choisir quelle est la meilleure façon de faire passer le message. Je crois qu'il n'y a pas de désaccord entre MSF et moi-même et un certain nombre d'autres acteurs, même gouvernementaux, qu'il faut absolument mettre tout le système politique devant leurs responsabilités. Chaque jour où les diplomates et les militaires continuent à laisser le conflit en Syrie continuer, ça nous coûte 250 à 300 vies humaines, pour ne pas parler des pauvres mamans et des enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors, il faut mettre la pression. C'est à MSF de choisir leurs propres moyens. De temps en temps, il vaut mieux participer et faire valoir ses critiques devant les leaders politiques sur place. De temps en temps, il faut se mettre un peu dehors. Bon, moi, je vais participer à Istanbul parce que je pense que c'est important de réunir tout le monde, y compris les ONG, y compris les États, et vraiment faire valoir qu'il s'agit ici d'une question de la conscience humaine globale. On ne peut pas continuer ces désastres sans réagir, et d'autres vont agir en dehors. À chacun de trouver leur moyen de communication le plus efficace.
Anéry. Oui, Handicap International, nous sommes résolument engagés en fait dans la préparation de ce sommet. Pourquoi ? Parce que même si nous ne sommes pas dupes de la nécessité pour les États de s'engager plus résolument, malgré tout, nous pensons que on doit se coordonner, on doit agir ensemble pour essayer de répondre aux crises. Et voilà, le système de réponse humanitaire, est-ce qu'il est ? Il est peut-être critiquable, mais c'est celui qu'on a. Donc, essayer de faire pression sur les acteurs et de faire bouger les choses de l'intérieur, c'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, le sommet pourrait être l'occasion pour les États de s'engager, de condamner publiquement l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée. C'est un des engagements qui a été mis en avant par le secrétaire général lorsqu'il a organisé ce sommet. Il y a un processus international en cours. Il s'agit en fait pour les États de s'engager tout simplement à cesser de bombarder les civils.
Alors les États, juste Anéry, si on veut un tout petit peu cibler davantage, l'État visé c'est la Syrie au jour d'aujourd'hui principalement.
Oui, mais pas uniquement. Il y a aussi le Yémen. Il y a eu l'Ukraine récemment. Il y a beaucoup d'autres contextes où effectivement les civils sont les principales victimes des bombardements. Donc, il y a cet engagement. Nous sommes engagés depuis plusieurs années Handicap International pour lutter contre les dommages causés aux civils par les bombardements. Et donc, ça, c'est un des résultats qu'on attendrait de ce sommet. Plus d'États qui rejoignent ce mouvement en cours pour mettre fin aux bombardements des civils.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, je rajoute cette information, je vous passe la parole ensuite à Alain Boinet, cette information concernant donc la décision de Médecins Sans Frontières de Bocuté. Alors, on n'est pas là pour ne parler que de Médecins Sans Frontières, mais juste pour dire que elle est tout de même d'abord l'une des principales organisations pourvoyeuses d'aide humanitaire dans le monde, et elle est elle-même devenue une cible récurrente dans les zones de conflit, avec 75 des hôpitaux qu'elle dirige ou soutient victimes de bombardements en 2015. Alain Boinet.
Oui, c'est ce que rappelait le docteur Joanne Lui, la présidente internationale de Médecins Sans Frontières, le 3 mai au Conseil de sécurité des Nations Unies. 75 hôpitaux soutenus ou dirigés par Médecins Sans Frontières ont été bombardés l'année dernière. Cela explique pour une bonne part probablement leur décision, mais pas seulement. Donc je pense qu'on partage les préoccupations, les réserves, les inquiétudes globalement de Médecins Sans Frontières. Après, il y a deux hypothèses. Ou bien on ne va pas, on boycotte le sommet humanitaire mondial, c'est leur position et c'est leur droit, et ils sont exigeants. Ou bien on y va avec les mêmes attentes, les mêmes exigences pour faire bouger les choses au sommet humanitaire mondial. Ce que je voudrais dire, c'est que l'intention des Nations Unies, et on la partage, c'est d'améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire parce que c'est une urgence aujourd'hui. Ceci étant, il est prématuré d'en annoncer d'emblée le succès. Il faut le démontrer. Donc c'est sur la base des résultats qu'on pourra juger si l'objectif a été atteint ou pas. Évidemment, ça ne sera pas le 25 mai qu'on pourra en juger parce que le processus va prendre un peu de temps. Mais il faut être extrêmement vigilant, extrêmement mobilisé. Solidarité internationale a fait le choix d'être présent avec énormément d'acteurs, mais notamment d'ONG internationales et nationales. Mais soyons, je dirais, mobilisés, vigilants. Ce que je voudrais ajouter, et c'est aussi une question à Klaus Sørensen, savoir ce qu'il en pense, c'est que, et c'est un des arguments de Médecins Sans Frontières dans la déclaration qu'ils ont faite, de ne pas aller à Istanbul. Nous savons que depuis plus de 20 ans, les acteurs humanitaires réclament à cœur, à corps et à cri un processus qui aille de l'urgence vers la reconstruction et ensuite le développement, et que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. C'est un sujet dont s'est emparé le Sommet humanitaire mondial. C'est-à-dire que les institutions internationales ont découvert, après 20 ans de débat, que c'était très important. Pourquoi ? Parce qu'on n'y arrive plus. Donc il a fallu qu'on n'y arrive plus pour qu'on se dise « Ah oui, c'est important ». Vous voyez d'où on part ? On part d'un échec pour dire « Il faut le faire ». Mais ça fait 20 ans qu'on parle de ce processus urgence, reconstruction, développement. Qu'est-ce qu'on a attendu? Qu'est-ce qu'on a attendu? Pourquoi a-t-on attendu? Et moi, ce que je vois dans la déclaration d'MSF, c'est qu'ils disent, précisément que le Sommet humanitaire mondial va se concentrer sur ce qui semble être une incorporation de l'assistance humanitaire dans un très vaste agenda de développement et de résilience. Et ils disent plus loin que il y a une menace de dissoudre l'humanitaire, l'assistance humanitaire, dans une sorte de très large agenda de développement, de construction de la paix sur la base d'agenda politique. Et moi, je souhaiterais savoir ce qu'en pense Klaus Sorensen, parce que ça, c'est pas la voie, ça, c'est pas la solution, ça, c'est dangereux. On sait pas où on va. Et s'il y a des intentions de cette nature, il va falloir en débattre, parce que il faut voir de quoi il s'agit, quoi. Je pense que là, il y a une préoccupation d'MSF qu'on partage.
Absolument.
Je ne sais pas ce qu'en pense Klaus Sorensen.
Alors, Klaus Sorensen, trois minutes pour terminer cette première partie d'émission. Ensuite, bien sûr, on reprendra de la deuxième partie. Klaus Sorensen.
Non, c'est justement le point sur lequel je ne partage pas l'analyse de Médecins Sans Frontières. Premier constat, il est clair que les humanitaires eux-mêmes ne peuvent pas parer au nécessaire. On n'a pas les ressources. Ça veut dire qu'il faut agir en amont. Il faut absolument que les humanitaires, au fond, donnent une impulsion à ceux qui contrôlent et qui construisent les programmes sectoriels de développement pour que ces programmes-là, dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans la sécurité alimentaire, pour qu'ils prennent en considération la situation des plus vulnérables. Il ne s'agit plus uniquement de construire des autoroutes entre le palais présidentiel et l'aéroport dans les capitales des pays du tiers-monde, mais il faut aller dans les villages, il faut aller dans les situations les plus compliquées, avec l'argent public du développement. Et il ne s'agit surtout pas d'instrumentaliser l'humanitaire. Ce serait parfaitement idiot de dissoudre l'humanitaire dans une sorte de magma énorme, politico-développemental, etc., etc. Mais pour ce faire, il faut que les humanitaires parlent. Il faut qu'ils s'assoient autour d'une table avec ceux qui font le développement en disant « Voilà, ici, il y a des situations de fragilité. Là, il y a des situations de vulnérabilité. Là, il y a des risques avec le changement climatique que les villages ne peuvent plus se nourrir. Là, il y a du stress sur l'approvisionnement en eau. De grâce, faites quelque chose, réorientez votre modèle de développement. Si on se tient comme humanitaire en dehors de cette discussion, on ne va jamais s'en sortir. »
Alors, nécessité de réorienter le modèle de développement, une réaction très
Absolument.
Rapide, on développera ensuite, Anéry.
Oui, bah effectivement, là, on est dans la tension entre est-ce qu'on se concentre sur la réponse, on améliore la réponse du mieux qu'on peut, ou est-ce que on vise plus large à essayer effectivement de faire le lien entre l'humanitaire et le développement. Clairement, le sommet a choisi la deuxième option. Et je suis d'accord avec Klaus Sorensen, pour autant, on ne doit pas négliger l'amélioration de l'efficacité de la réponse.
Alain Boinet.
C'est clair, il faut sauver des vies aujourd'hui.
Oui, moi, je partage tout à fait ce qu'ont dit Klaus Sorensen et Anéry. Ceci étant dit, je pense qu'il reste à convaincre un certain nombre de grands acteurs du développement qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Je crois effectivement que les acteurs humanitaires, depuis 20 ans, portent cette demande, cette attente, cette exigence. Et on va continuer dans cette voie. Mais il faut vraiment maintenant qu'on y passe. Parce que Klaus Sorensen, vous vous en souvenez, ça fait longtemps qu'on en parle. Quand vous étiez directeur général des cours, on en parlait déjà. Et l'attitude d'acteur du développement était vraiment problématique, quoi. Donc là, il faut vraiment que ça bouge. Et il faut vraiment que ça bouge parce que c'est tout simplement indispensable.
Alors, on développera dans la deuxième partie de l'émission cette notion que vous opposez finalement entre développement et humanitaire, géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Anéry, Klaus Sorensen et Alain Boinet, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le sommet mondial sur l'action humanitaire qui s'ouvre lundi à Istanbul, en Turquie. Nous retrouvons nos invités, Anne Ri, directrice du plaidoyer des relations institutionnelles à Handicap International, Klaus Sørensen, qui est avec nous par téléphone depuis Venise, conseiller auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour l'aide humanitaire, les réponses aux crises, la résilience, et Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale. Il a beaucoup été question dans la première partie de l'émission, et j'aimerais qu'on clarifie un tout petit peu de cette opposition que vous évoquiez les uns les autres entre développement et humanitaire. Klaus Sørensen, en quoi ces deux notions s'opposent-elles ?
Bah, écoutez, au fond, il n'y a pas de conflit entre les deux. Il y a des systèmes qui travaillent de façon différente, c'est-à-dire l'humanitaire, c'est dans le court terme, c'est sauver des vies maintenant, tout de suite. Et le développement, c'est souvent des programmes à moyen et long terme, 5 années, 10 années, des plans nationaux de développement, on construit des routes, on construit des systèmes de santé, etc., etc. Mais il faut bien savoir que dans un certain nombre de pays de par le monde, il y a une fragilité et une vulnérabilité extraordinaire. Il y a un manque de gouvernance. Il y a même ce qu'on appelle en anglais « fail state », des cas qui n'arrivent pas à fonctionner. Ça veut dire qu'il y a un risque à ce que tous les grands programmes et projets de développement basculent dans le chaos si on ne s'occupe pas du risque. Et les humanitaires sont bien placés pour expliquer aux gens du développement que, effectivement, là, il y a une pénurie de l'eau. Là, il y a un risque d'épidémie. Là, il y a des situations de gouvernance qui sont très faibles. Il y a d'ailleurs des criminels et des réseaux mafieux qui font du trafic, par exemple, dans le subsaharien, dans le Sahel, etc. On connaît bien ça. Pour expliquer ça. Pourquoi ? Parce que ceux qui font le développement doivent incorporer dans leur action, leur plan de la politique de santé, ce risque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand on combat des épidémies, il ne suffit pas de former des infirmières dans la capitale. Il faut avoir une chaîne de froid qui peut-être alimentée par des panneaux solaires dans les villages. Parce que si on n'arrive pas à vacciner en amont, suffisamment rapidement, la pandémie va se déclencher. La même chose avec la sécheresse, les changements climatiques, les villages qui tout à coup sont frappés par une sécheresse 2 années de suite, ils commencent à ne plus pouvoir produire, ils commencent à vendre leur bétail, leurs chèvres. La pire des choses, c'est qu'ils vendent aussi leurs terres. Et tout à coup, ils deviennent complètement sans moyens de production. Et ça crée de l'instabilité. Et encore une fois, il faut que la politique de sécurité alimentaire nationale de ces pays-là aille dans les villages, dans les situations les plus fragiles. Au fond, il n'y a pas de contradiction. L'un ne peut pas avoir des résultats sans l'autre. Parce que si l'humanitaire croit qu'on peut sauver des vies demain, je parle bien de demain, on vit en pleine illusion. Et si ceux du développement pensent qu'ils peuvent créer du développement sans tenir compte du risque, ils vont aussi se gourer. Alors, vous voyez, il faut se tenir par la main. C'est absolument essentiel.
Alors, moi, je retiens de ce que vous disiez tout à l'heure, Klaus Sørensen, d'abord cette nécessité de travail en amont. C'est peut-être une évolution dans le travail humanitaire, je ne sais pas. Et Klaus Sørensen disait également qu'il fallait que les humanitaires parlent. Alors, moi, j'ai cette question à tous les deux, Alain Boinet, Anne Ri, représentants d'organisations non gouvernementales. Est-ce que vous ne parlez pas assez ou est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être assez entendu ?
Je pense qu'on parle beaucoup. Effectivement, on n'est certainement pas assez entendu. Pour en revenir à ce lien entre urgence et développement, moi je donnerais un exemple très concret. Crise syrienne, imaginez le Liban, ça fait maintenant 5 ans que le conflit en Syrie perdure. Un nombre de réfugiés au Liban absolument faramineux. Depuis 5 ans. Donc on est à la fois dans une situation humanitaire et puis sur le long terme, on est dans une crise qui dure. Donc souvent, les financements humanitaires sont à très court terme, 6 mois, 1 an maximum, et c'est extrêmement difficile de travailler sur le long terme. Donc on travaille auprès de réfugiés, auprès de communautés hautes qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. On est vraiment dans une zone qui est entre le développement et l'urgence. Un des résultats probables du sommet humanitaire, en tout cas c'est ce qui se dessine, c'est un engagement de tous les bailleurs de l'aide à donner des financements multiannuels pour l'humanitaire. Ça, ce serait un vrai résultat, ce serait un vrai progrès. On en parle depuis des années. Si le sommet humanitaire pouvait au moins servir à donner une impulsion pour que des dossiers comme ça puissent vraiment aboutir, je pense que ce serait quelque chose de très positif.
Alain Boinet.
Je crois qu'on parle beaucoup, mais que trop d'acteurs n'ont pas voulu entendre ce que nous disions, nous les acteurs de terrain, au contact des populations, notamment en situation de sortie de crise. C'est-à-dire que à la fin de l'urgence ou en sortie de crise, les humanitaires depuis longtemps se posent la question, et après, et après, et après. Et nous-mêmes, comme Écho d'ailleurs, on a dû parfois continuer très très longtemps parce que le relais n'était pas pris par personne.
Alors que nous appelions
les institutions de développement, je veux dire, à prendre le relais, à arriver plus tôt et à coopérer. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que effectivement, il est important que ce lien s'organise, se structure, à la fois avant les crises, notamment par des politiques d'aide au développement à destination des populations les plus fragiles, qui sont les premières victimes au moment de la crise, parce que les plus fragiles, et ces populations ne sont pas toujours ciblées dans les politiques de développement de manière prioritaire. Deuxième point, dans les crises, il y a des disparités de situation dans un même pays d'une région à l'autre. C'est-à-dire que on peut dans une région être sur de l'urgence, on peut être dans une autre région sur la reconstruction, et dans d'autres régions, on peut encore être sur des politiques de développement qui vont aider, comme on l'a vu en Haïti après le tremblement de terre, la population à s'alimenter parce que toutes les zones n'ont pas été touchées ou par la guerre ou par la catastrophe. Et puis après, parce que quand on sort d'une crise généralisée, il faut vraiment que le relais soit pris entre les acteurs de l'humanitaire, de l'urgence et les acteurs de développement. Je voudrais aussi dire une chose qui est très importante, c'est que il faut que la communauté internationale intègre l'aide humanitaire dans les objectifs de développement durable. 195 États ont voté les objectifs de développement durable 2030 au mois de septembre dernier aux Nations Unies. 17 objectifs. Je vais en prendre un pour donner un exemple, qui est l'objectif concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement. 195 États, avec les Nations Unies, ont dit dans 15 ans, il y aura un accès universel à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Alors nous disons deux choses. Nous disons d'abord, ça intègre bien sûr les situations, les populations affectées par des crises, dans les catastrophes et les conflits. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre des moyens suffisants pour y parvenir. Et en plus, ce qu'on dit, c'est que c'est une promesse, mais qu'aujourd'hui, les conditions, finalement, ne sont pas réunies pour qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, nous, on pense qu'on n'y arrivera pas. C'est une promesse qui ne sera pas tenue. Donc je pense qu'il faut vraiment s'engager sur des choses qu'on va faire, quoi, et pas sur des promesses qui ne sont pas tenues. On l'a trop vu, les gens y croient de moins en moins. Et là, vraiment, il y a un gros enjeu. Et le sommet d'Istanbul, et je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Klaus Hansen, les humanitaires doivent faire bouger l'ensemble du système, y compris jusqu'aux objectifs de développement durable. Et puis, peut-être aussi qu'on pourrait se poser la question de savoir quels sont les engagements de la France au sommet humanitaire mondial, dans un domaine qui nous intéresse particulièrement.
Alors, Klaus Sorensen, moi je me tourne vers vous. Comment vous abordez ce sommet d'Istanbul ? Je rappelle que vous êtes conseiller auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour l'aide humanitaire, les réponses aux crises et la résilience. Comment est-ce que vous, l'Union européenne, vous abordez ce sommet ?
Je pense que nous nous sommes très 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 bien préparés. L'Union européenne a d'ailleurs, dans son entièreté, été un des premiers groupements régionaux pour soutenir l'initiative de Ban Ki-moon, parce qu'on s'est bien rendu compte que vraiment il fallait, après les objectifs de développement soutenable qui sont guides pour toute la population du globe, il fallait se focaliser sur les plus faibles. Et il fallait un signal très fort à un moment donné, et le sommet d'Istanbul était l'occasion. Alors on a soutenu tout ça. Tous les États membres, les 28 États membres de l'Union européenne ont travaillé comme des dingues pour injecter des conclusions ambitieuses sur toute la palette, que ce soit sur la résolution des crises, la prévention des crises, la diplomatie préventive, que ce soit sur l'éducation des jeunes, que ce soit sur les déplacés à long terme, comme disait Aniri tout à l'heure au Liban, etc., etc. On est allé à fond la caisse là-dedans. Et nous descendons avec trois commissaires, la vice-présidente Georgieva, qui aussi a joué un rôle primordial pour vérifier si on ne pouvait pas lever beaucoup plus de fonds pour la cause humanitaire, mais aussi le commissaire justement au développement, Mimica, qui contrôle lui tous les fonds de développement de l'Union européenne, mais aussi qui essaye de coordonner comment nous pouvons travailler ensemble, États membres et Commission européenne, dans l'Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et dans différentes zones du globe. Lui, il est là aussi. Et évidemment, le commissaire Stylianides, qui est responsable de l'humanitaire pur. Alors chez nous, il y a vraiment cette notion de se tenir par la main et travailler ensemble. Et je ne pense pas qu'il faut, comme vous le dites, justement parler. Je crois que les humanitaires doivent crier, hurler presque, cette détresse de la population la plus vulnérable. Parce qu'il faut que le message passe. Il faut aussi que les membres permanents du Conseil de sécurité se rendent à l'évidence que chaque jour où nous devons attendre des solutions politiques, ça a un impact pas seulement diplomatique, politique, géopolitique, en abstrait, mais il y a des gens qui meurent. Et c'est parfaitement scandaleux qu'on a laissé la Syrie pourrir comme nous le voyons. On est en train de créer un Bangladesh ou un Somalia bis. C'est mauvais pour tout le monde, tout le monde.
Alors moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Klaus Sørensen à propos de l'ONU, le Conseil de sécurité. Finalement, ce qu'on sent dans cet avant sommet d'Istanbul, c'est la nécessité d'une action renforcée de l'ONU dans la résolution des conflits. Bref, qu'il y ait davantage de fermeté, c'est cela que j'entends, plutôt que de laisser le travail aux organisations onusiennes. Voilà, c'est au cœur du problème aussi, le Conseil de sécurité des Nations Unies, Anne-Éry.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on évoquait au début de l'émission, c'est-à-dire la responsabilité première des États de montrer une volonté politique, une autorité politique pour prévenir et mettre fin et résoudre les conflits. Le conflit syrien est un exemple, mais il y en a d'autres. Moi, j'aimerais revenir peut-être sur ce que disait Klaus Sørensen à propos des plus vulnérables, de l'aide humanitaire et du sommet, puisque c'est aussi, je pense, une des possibilités offertes par ce sommet. Nous, en tout cas, Handicap International, un des axes sur lequel nous avons beaucoup, beaucoup travaillé, c'est justement l'inclusion des plus vulnérables dans la réponse humanitaire, parce qu'une aide humanitaire efficace, c'est une aide qui se concentre sur les plus fragiles, les plus vulnérables et qui n'oublie personne. C'est pour cela que nous avons engagé tout un processus de dialogue avec des États bailleurs de l'aide, des États qui sont des pays affectés par l'humanitaire, des personnes touchées par les crises qui étaient handicapées, parce que en fait, selon l'OMS, il y a environ 15% de personnes dans le monde qui sont handicapées par rapport à la population globale. Ce qui veut dire que dans les crises humanitaires, ça représente des millions, des dizaines de millions de personnes. Donc, nous avons essayé de voir comment les pratiques des acteurs humanitaires pouvaient permettre de mieux inclure ces personnes, comment faire en sorte que dans les distributions alimentaires, on atteigne ces personnes, comment faire en sorte qu'elles aient accès à toutes les structures dans les camps de réfugiés, comment faire en sorte qu'elles aient accès à des soins spécifiques dont elles ont besoin. Et nous avons abouti à nous mettre d'accord sur une charte sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'urgence, grâce à ce dialogue multi-acteurs qui a pu aboutir parce qu'il y avait l'échéance du sommet. Donc aujourd'hui, on a une trentaine d'États qui ont endossé cette charte et qui vont l'annoncer au sommet. On a des dizaines et des dizaines d'organisations humanitaires, des agences onusiennes qui endossent aussi cette charte et qui sont tous engagés pour mieux inclure les personnes handicapées dans l'urgence. Et ça, je pense que c'est un vrai résultat du sommet.
Alain Bouenet ?
Oui, quand on parle de la responsabilité des États face aux crises, on pourrait évoquer le cas de figure auquel nous sommes encore aujourd'hui confrontés. Il y a eu, par exemple, la situation du Mali et de la République de Centrafrique, où il y a eu des interventions militaires françaises qui, au fond, ont réussi, globalement. Parce qu'on était vraiment au risque de non seulement de guerre civile généralisée, mais voire de génocide parfois. C'était notre crainte. Donc ça a fonctionné. En revanche, si l'on voit la situation en Irak et par extension au Proche-Orient, on peut se poser la question de savoir quelle est la responsabilité des États-Unis dans leur intervention en Irak. Et puis on peut aussi se poser la question par rapport au désordre généralisé au Sahel, avec toutes les conséquences que ça entraîne, y compris sur les populations déjà victimes de la sécheresse, sur les frappes, les bombardements que la France et la Grande-Bretagne ont opérés sur ce pays en détruisant ce qui existait. Est-ce que la situation aujourd'hui est meilleure et quelles conséquences cela entraîne? Donc je crois que les États doivent en tirer des leçons et nous aussi. Concernant le sommet, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un diplomate français me disait il n'y a pas longtemps, au fond, tu sais, toutes les grandes réformes que moi j'ai vues quand j'étais en poste à New York, elles ont demandé 20 ans. Donc j'espère que ce qu'on veut réformer pour améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire, ça va pas demander 20 ans, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les décisions politiques, les décisions de la communauté internationale, elles sont toujours trop en retard par rapport à l'évolution des événements, par rapport aux situations qui dérapent, qui nous échappent, etc. Il faut être plus efficace, faut être plus rapide, il faut être, voilà. Et là, les États doivent prendre en compte cette dimension, quoi. Je voudrais aussi rappeler que, comme cela a été cité tout à l'heure, en 2014, 60 millions, le chiffre le plus élevé jamais, atteint 60 millions de déplacés, 60 millions de réfugiés, et nous sommes aux limites de capacité du système humanitaire pour répondre à leurs besoins. Un pays sur deux, en crise, n'arrive pas à en sortir, et 93% des gens les plus pauvres dans le monde vivent dans les pays en crise. Voilà l'enjeu du sommet humanitaire mondial, et il va falloir hurler, effectivement, intelligemment, avec des arguments, et c'est ce que fera Solidarité Internationale avec l'ensemble des ONG qui sont sur cette position. on a un devoir de réussite, quoi. Mmh. Et qui est collectif, hein, qui est pas seulement celui des ONG, effectivement, c'est tous ensemble. Mais il faut que toutes les parties prenantes, je dirais, soient sur cet agenda de réussite et d'efficacité humanitaire renforcée.
Alors, un agenda, et ce sera presque ma dernière question, qui est particulièrement large, hein, pour ce sommet d'Istanbul sur l'humanitaire. Comment hiérarchiser, d'une certaine manière, les priorités? Qu'est-ce qui fera le succès ou l'échec de ce sommet humanitaire mondial? Et juste avant cela, moi, ce que j'aimerais tout petit peu approfondir, quand on parle de responsabilité politique face au conflit, Alain Boinet évoquait la responsabilité des États-Unis, finalement, de quoi parle-t-on exactement, Klaus Sørensen?
Pour moi, un critère de succès du sommet, c'est qu'il y aura un appel très fort, presque un cri de cœur de tout le monde d'Istanbul, un appel à la conscience collective de respecter la vie humaine, même dans des situations de conflit, et évidemment dans les catastrophes naturelles, il va de soi. Mais toutes les cultures, tous les systèmes politiques ont à leur base la protection des plus vulnérables. Il faut ressortir ça de la discussion et placer un message très très fort sur l'échiquier politique. Alors derrière ça, il y a le droit humanitaire, il y a les droits de l'homme, etc., etc. Alors ça, c'est un appel. L'autre appel, c'est qu'il faut prévenir, il faut agir en amont, parce qu'il ne s'agit pas de sauver des vies quand la catastrophe est arrivée, il s'agit de sauver des vies demain. Cette intégration entre le développement et l'humanitaire, pour moi, est absolument essentielle. Et en dernier, et c'est pas la moindre des choses, c'est ce que venait d'évoquer Anneri tout à l'heure, c'est l'efficacité du système. C'est parfaitement idiot qu'on ne peut pas donner des financements multiannuels, c'est parfaitement idiot qu'il y a sur une crise 6 ou 7 plans qui se sont en compétition entre eux, un sur la santé, l'autre sur la protection des mineurs, l'autre sur le déminage, etc. Il faut coordonner ça de façon beaucoup plus intelligente et se faire à l'idée qu'on ne peut pas résoudre un problème sans travailler ensemble. Et là, le système onusien a vraiment des réformes à faire eux-mêmes. Il faut que les organisations, les agences travaillent mieux ensemble, qu'ils ne sont pas calés sur leur mandat, mais qu'ils ont quand même un mandat qui vient de la Charte des Nations Unies pour améliorer la condition humaine. Voilà pour moi le critère de succès.
Alors, il n'a pas été question de responsabilité politique face au conflit. J'entends bien que c'est un débat qui est peut-être difficile à lancer maintenant en cette fin d'émission. En tout cas, voilà, au moins la question a été évoquée très rapidement pour conclure, Anne-Héry Alain Boinet.
Ma conclusion, ce serait de dire que un des indicateurs de succès du sommet, est-ce qu'on attend des États, des acteurs, ça tient en quatre mots qui sont les principes humanitaires. Humanité, c'est-à-dire l'impératif humanitaire. Avant tout, la responsabilité des États, des acteurs, c'est de faire en sorte que quand il y a des populations en danger, on réponde à leurs besoins. C'est la responsabilité première des États, mais il faut absolument que cet impératif humanitaire soit réel. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, l'impartialité de l'aide. Les plus vulnérables d'abord, et puis indépendance et neutralité pour que l'aide ne soit pas soumise à des impératifs ou des intérêts géopolitiques ou stratégiques.
Alain Boinet, en un mot.
Je crois qu'il faudra être pragmatique pour rechercher l'efficacité, c'est-à-dire que il n'y a pas un système humanitaire mondial unique sur un seul modèle. Il y a un ensemble de modèles, il y a un ensemble d'acteurs différents qui doivent agir en complémentarité, en plus-value les uns avec les autres, en coordination, à la fois sans doute avec une coordination internationale, les Nations Unies c'est leur rôle, mais aussi avec des coordinations sur le terrain, crise par crise. Donc une diversité d'acteurs qui se concertent, qui se coordonnent et qui jouent ensemble pour plus d'efficacité humanitaire. Et c'est la voie dans laquelle sera Solidarité Internationale.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Anne-Héry, directrice du plaidoyer des relations internationales à handicap international. Klaus Sørensen qui était avec nous par téléphone, conseiller auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour l'aide humanitaire, les réponses aux crises, la résilience. Et Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale. Je signale juste pour aller plus loin sur cette thématique, la parution aux éditions du CNRS de Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques, sous la direction de Michael Neumann et Fabrice Weissmann de Médecins sans frontières. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin et Nathalie Laporte. Pas d'édition de Géopolitique demain dimanche, place au cinéma avec le palmarès du Festival de Cannes. Je vous retrouve samedi prochain. À très bientôt.